Alors ce matin, chers amis, je pose juste une petite question. Vous avez bien dormi? Autre question. Quel est le titre de mon message ce matin? Alors le titre, merci. Le titre sera « Comment guérir nos émotions négatives ?» Comment guérir nos émotions négatives? Et j'ai pensé ce matin, juste avant le petit déjeuner, j'ai dit, les pensées négatives ou les émotions négatives, on les trouve dans la Bible dès le début. On le commence déjà avec Adam et Ève. Ils étaient mécontents parce qu'ils ne pouvaient pas manger du fruit, ce que Dieu avait interdit. Ils étaient mécontents, ce ressentiment, déjà sentiment de mécontentement. Donc ils ont désobéi, nos premiers parents. Donc dès le début de la race humaine, il y avait désobéissance. Après cela, on voit leur fils qui était jaloux. Caïn était jaloux de Abel parce que Dieu avait agréé l'offrande de son frère. Donc Caïn était jaloux de son frère, et puis pas seulement cela, mais il avait aussi la haine dans son cœur et il l'a tué. C'est pas brillant, hein? C'est nos premiers parents, c'est la première famille. Et je pense donc, dès le début de la Bible, nous voyons qu'il y avait des sentiments qui étaient négatifs. Heureusement, par la nouvelle naissance, tout peut changer. Et quand Dieu entre dans une vie, quand Dieu nous voit, il nous voit d'une autre façon que nous nous voyons nous-mêmes. Et j'ai pensé à un homme, son nom commence avec un G. Gédéon. Il dit, je suis le plus petit de la famille et ma famille est la plus pauvre de toutes les familles du pays. Il se voyait vraiment comme un homme dévalué, un homme donc avec un complexe d'infériorité, encore un ressentiment. Et il y a peut-être des personnes ici, de temps en temps, qui disent, moi je ne suis pas intelligent, je ne suis pas beau, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et parfois, on en souffre. Mais Dieu dit non. Et comment est-ce que Dieu voit Gédéon? Il dit vaillant héros, pas seulement héros, vaillant héros. Il est appelé vaillant héros par Dieu. Malgré le fait que Gédéon lui-même, il se voit lui-même comme un zéro. Dieu dit tu es un héros et pas un zéro. Et je trouve ça c'est merveilleux. Et j'ai pensé à un homme dans le Nouveau Testament, il s'appelle Timothée. Et Timothée veut dire précieux pour Dieu. Timothée. Et puis, j'ai l'impression, en lisant l'épître de Paul écrite donc, pour son ami Timothée, son enfant spirituel, il dit, Timothée, tu te vois peut-être comme timide, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Vous connaissez 2 Timothée 1:7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Donc il souffrait de sentiments d'infériorité. Et ça se peut ce matin qu'il y a des frères ou sœurs qui souffrent d'un complexe d'infériorité. On t'a dit tu es zéro et tu n'es pas grande chose, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas jolie, etc. Mais pour Dieu tu es un homme ou une femme importante. Donc comment guérir nos émotions négatives? Comment est-ce que Dieu nous voit? Il y a un verset merveilleux, psaume 139, verset 14. Et ça montre le miroir de Dieu. Quand tu te lèves le matin, regarde dans le miroir de Dieu. Et ce miroir de Dieu montre que je suis une créature merveilleuse. Même si les autres disent que tu es moche, pour Dieu, tu es merveilleux. C'est bien, hein? C'est ça. Alors, la question s'est posée dans le Nouveau Testament, comment est-ce que Dieu nous a créés? Pour le monde, ce qui compte le plus pour le monde, c'est le physique, les produits de beauté, tout ce qui est physique pour le monde. Mais comment est-ce que Dieu nous a créés? Et nous voyons dans ce verset quelque chose de très intéressant. Non, ça c'est une grande erreur. Ça, c'est le psaume 139. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et le verset après, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Et ça montre comment Dieu nous a créés. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, pour le monde, ce qui compte le plus c'est le corps, mais dans ce verset nous voyons d'abord l'esprit, et puis l'âme et le corps. Et avec l'esprit nous pouvons avoir un contact avec Dieu, avec l'âme nous pouvons avoir un contact avec les gens autour de nous, et avec le corps c'est parce qu'on n'est pas un fantôme, on est visible. Heureusement. Donc ça c'est intéressant, Dieu nous a créé esprit, âme, corps. Et qu'est-ce qu'on trouve après dans notre âme? C'est bien de voir un petit peu comment Dieu nous a créés. L'âme consiste de trois éléments. Nos pensées, façon de penser, mentalité, nos émotions, deuxièmement, et notre volonté. Et nos pensées se trahissent, se montrent par nos paroles. Et nos émotions, ça parle aussi de sentiments et de ressentiments qu'on peut avoir. Et notre volonté, par notre volonté, on peut choisir. C'est le choix, c'est le comportement, ce sont nos actions et nos réactions. C'est tout par la volonté. Donc Dieu nous a créés dans notre âme avec pensée, émotion et notre volonté. Donc en tout, il y a 5 composants, pour compliquer un petit peu. Il y a le côté physique, il y a le côté rationnel. C'est la façon de penser. Et le côté émotionnel, ça donc les sentiments. Côté volitif, ça veut dire tout ce qui est choix, etc. Volonté. Et puis le côté spirituel. Et par le Saint-Esprit qui se lie à notre esprit, nous pouvons avoir un contact avec Dieu. Alléluia. Tandis que le monde, les gens qui ne sont pas chrétiens, n'ont pas cette façon de faire. N'ont pas ce privilège que nous avons par le Saint-Esprit qui parle à notre esprit, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est merveilleux. Mais il y a donc 5 composants en tout. Côté physique, côté rationnel, côté volonté, donc c'est volitif, on appelle ça, côté émotionnel et spirituel, donc le 5. Alors, il y a un lien, ça c'est intéressant de savoir sur le plan pratique, il y a un lien entre le côté physique et entre le côté psychique. Car on a constaté, chez le docteur de famille, le généraliste, il y a 70 à 80% des gens qui viennent, ils ont un problème pas physique, mais un problème mental souvent, un problème psychosomatique. Par exemple, pas toujours, il y a des gens qui ont par exemple eu un cancer, et le cancer arrive souvent après un choc émotionnel. Un choc dans la famille, quelque chose qui est arrivé, qui a créé cette façon de faire, qu'il y a donc une répercussion sur le système immunitaire, et après cela, il y a un cancer qui était là peut-être depuis longtemps dans le corps, mais qui se déclenche. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc on appelle ça des maladies psychosomatiques, 70 à 80% des gens qui viennent voir le médecin. Ça, c'est intéressant de savoir aussi. Alors, le côté spirituel, je veux dire aussi quelque chose. Le côté spirituel est influencé par les expériences que nous avons eues. Et le côté spirituel est lié étroitement à l'image que nous avons de Dieu. Quelle est notre image de Dieu? Souvent, cette image est déformée par l'ennemi de Dieu, par le diable, qui propose des religions. Les gens autour de nous, il y en a beaucoup de gens qui se disent protestants ou catholiques, ça veut dire ils sont baptisés comme bébés, mais après cela ils ne mettent jamais un pied dans l'église, mais ils sont contents parce qu'ils sont baptisés et ça suffit. Et ça s'appelle être religieux. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas contre ce qu'on fait, mais ils ne bougent pas. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de lien avec Dieu. Et donc il y a toutes sortes de rites, il y a des gens autour de nous qui sont religieux, il y a d'autres qui sont indifférents. Et ça, c'est très difficile aussi. Puis, il y a aussi, sur le plan spirituel, il y a la question qui se pose, as-tu quelque chose contre Dieu ou lui contre toi? Ça, c'est aussi une question sur le plan spirituel. Par exemple, j'ai des voisins, et j'ai parlé une fois sur le plan spirituel, j'ai parlé de Jésus, Et j'ai compris que ce monsieur, il ne veut rien savoir parce que quand il était jeune, son papa est mort. Et il blâme Dieu parce que son père est mort. Donc il ne veut rien faire avec Dieu. Donc il blâme Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment quelque chose contre le Seigneur. Et ça, c'est triste. As-tu quelque chose contre Dieu ou lui contre toi? Et il y a une dame qui est venue dans notre réunion biblique, école, études bibliques à Tourcoing. Et un jour, elle a dit, on a posé la question, comment est-ce que vous voyez Dieu? Et elle a dit, je vois Dieu comme un père fouettard. Peut-être elle a eu un père qui était très strict, et elle rapporte sur Dieu ce qu'elle a vécu dans la famille. Et ça, c'est peu qu'il y a des gens qui viennent de temps en temps nous voir, à la maison, ou même dans nos réunions, et ils ont quelque chose contre Dieu, ou ils sentent que Dieu a quelque chose contre eux. Et ça, c'est triste. Il faut savoir aussi que nos émotions montrent que nous sommes humains. Parce que les ordinateurs, les automates et les robots n'ont pas d'émotions. Ils peuvent calculer, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais nous avons des émotions, des sentiments en plus. Tandis qu'on peut créer maintenant des robots, on peut créer beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de sentiments. Alors, j'ai posé la question, mais qui s'occupe de nous dans la vie pratique de chaque jour? Il y a trois types de personnes. Il y a les médecins qui s'occupent du côté physique. Il y a les responsables spirituels, les pasteurs et les anciens, ils s'occupent du côté spirituel. Et les psychologues ou les psychiatres, ils s'occupent du côté psychologique. Donc, on a ces trois spécialistes dans ce sens. Il y a une différence entre nos émotions et nos sentiments, mais on ne va pas dans cette direction parce que c'est assez compliqué. Mais il y a un changement, il y a une différence entre émotions et sentiments. Et j'ai l'impression que les sentiments découlent souvent de nos émotions. Maintenant, on va voir juste rapidement ensemble. Il y a trois émotions négatives principales. Émotions négatives dominantes. Il y a la colère, il y a la culpabilité, il y a l'anxiété. Ce sont nos émotions principales qu'on peut avoir. Et chacun de nous, nous avons au moins une de ces émotions que nous avons connues dans notre vie. Ce peut être donc la colère ou le ressentiment, la culpabilité ou l'anxiété. Et je vais le développer un petit peu avec vous. Quand est-ce que la colère arrive? Ça, c'est la question. La colère arrive quand quelqu'un ou quelque chose crée un obstacle entre nous et le but qu'on vise. Entre toi et le but qu'on vise. Tu vises un but, tu veux faire quelque chose et il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche d'atteindre ce but et ça crée la colère en toi et en moi. Tu me donnes un exemple biblique d'abord. J'ai pensé à un homme qui s'appelle Démétrius dans les Actes des Apôtres. Qui connaît Démétrius?
De nom.
Il était un orfèvre. Il était un orfèvre et puis il avait des gens qui travaillaient pour lui pour créer des petits temples de Diane. Et quand Paul est venu, il dit dans un sens, Diane et tous les autres, ce sont pas de vrais dieux. Et donc ces gens-là, ils ont eu peur de perdre leur travail. Et après cela, ils ont attaqué les chrétiens, les gens croient en Jésus. Ils disent, c'est Jésus qui est Dieu et tout le reste qui est autour sont des faux dieux. Et Démétrius et ses ouvriers n'ont pas voulu ça. Et puis il y avait un soulèvement dans la ville et ce n'était pas bon du tout. Donc ça c'est l'exemple. Donc pour Démétrius et pour les orfèvres, Paul était un obstacle pour leur travail. Et c'est pour cela que Paul était attaqué et les chrétiens. Il y a aussi un exemple dans la vie de chaque jour, et vous connaissez ça peut-être. Il y a un garçon qui aime beaucoup une fille, mais pour les parents, la fille n'est pas bonne pour leur fils. Donc, ça crée un problème dans la famille parce que l'obstacle est là. La fille n'est pas bonne pour leur fils. Ils ne veulent pas qu'ils se marient avec elle. Et donc, ça fait que le garçon se met en colère contre les parents, parce que les parents ne sont pas d'accord. Vous comprenez l'exemple que je donne, et ça arrive assez souvent. Les parents empêchent leur fils ou leur fille de faire une certaine étude, et les parents ne veulent pas. Ça coûte, c'est trop cher. Et donc, ça se peut qu'il y ait des problèmes dans la famille, parce que les parents ne sont pas d'accord avec leurs enfants, ou les enfants ne sont pas d'accord avec les parents. Donc la colère arrive quand quelqu'un ou quelque chose crée un obstacle entre nous et le but qu'on vise. Ça crée une colère dans la vie. Il y a aussi donc le deuxième, c'est la culpabilité. Quand est-ce que la culpabilité arrive? La culpabilité arrive quand on n'atteint pas le but choisi ou donné par Dieu. Je vous donne un exemple. Exemple, vouloir vivre sans faire des erreurs ou être aimé par tout le monde. Je ne comprends pas, elle ne m'aime pas, il ne m'aime pas, qu'est-ce que j'ai fait? Et là donc, ça peut créer une culpabilité dans la personne. Parce qu'elle vise quelque chose ou il vise quelque chose d'impossible. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Vous êtes d'accord? On aimerait bien être aimé par tout le monde. Et on aimerait bien vivre sans faire des erreurs. Ça, c'est impossible quand tu travailles. Seulement ceux qui travaillent font des erreurs. Ceux qui ne font jamais des erreurs, parce qu'ils ne travaillent pas. Vous êtes d'accord? Jusqu'à maintenant. Donc la culpabilité arrive souvent comme ça. Et le problème est situé aussi dans le but choisi, là, dans ce cas. On a choisi un but qui est impossible et, ou indiqué par Dieu. Dieu dit, tu dois vivre sans péché. Et de temps en temps, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas la gloire de Dieu et ça crée une culpabilité. Vous êtes d'accord jusque maintenant? On a la colère, le ressentiment. On a aussi donc la culpabilité. Et la troisième chose, très intéressante aussi, nous passons parfois par des moments d'anxiété. Et moi, j'ai connu ça comme un petit garçon. J'avais seulement 6 ou 7 ans. Mes parents avaient donc un magasin, c'est en Hollande, à Haarlem, près d'Amsterdam. Et de temps en temps, mes parents allaient visiter les amis à eux. Pendant la soirée, ils nous laissaient seuls. J'avais un petit frère qui avait peut-être 2 ou 3 ans. Moi, j'étais l'aîné. J'avais 6 ou 7 ans. Et quand mes parents étaient partis, je ne pouvais pas dormir. C'était 10 heures le soir, j'entendais sonner la cloche donc de la maison, l'horloge. 10 heures. 11 heures, ils ne sont pas. Minuit, ils sont pas à la maison. Et moi, j'avais peur. J'ai vraiment vécu une grande peur, anxiété, quand j'étais petit garçon. J'ai connu ça et je n'ai pas parlé avec mes parents, ils n'ont jamais su. Et comme petit enfant, souvent j'avais peur parce que les parents n'étaient pas toujours là quand j'avais besoin d'eux, si quelque chose arrive. Et en ce moment, j'avais entendu, c'était pendant la guerre aussi, il y avait des cambrioleurs qui venaient. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Comme petit garçon déjà, si mes parents ne sont pas là, les cambrioleurs, j'avais vraiment peur. C'est commencé comme petit garçon déjà. Et plus tard, donc, on peut avoir peur de réussir certaines choses. Et moi, je connais une dame qui était dans notre assemblée à Tourcoing. Elle a essayé 7 fois d'avoir son permis de conduire. Elle ne l'a pas eu. 5 fois, 6e fois, 7 fois, elle ne l'a pas eu. Elle l'a eu, je crois, 8e fois. Mais ça crée une grande anxiété. Si tu n'as pas un examen, tu dois faire un examen. Tu ne l'as pas eu la première fois, la deuxième, la troisième fois. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent, attends, tu peux l'avoir la première fois. Moi, j'ai eu la première fois en Hollande. J'ai de refaire à Saint-Étienne en France. Je l'ai eu la première fois aussi. Mais je n'ai rien à être fier de ça. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Et c'est très difficile parfois. Et quand tu ne réussis pas la première fois, deuxième, troisième fois, c'est difficile. Et ça peut créer en toi une anxiété. Vous comprenez, vous me suivez. Donc il y a la colère, la culpabilité et l'anxiété. Ça veut dire, l'anxiété arrive quand tu as un but qui semble impossible pour toi. Pour les autres, ils réussissent, mais toi, tu ne réussis pas. Il peut y avoir que vous êtes ici, et comme petit enfant, vos parents sont partis le soir, et vous n'avez pas souffert du tout. Nous sommes tous différents, mais pour moi, j'ai vécu grande anxiété et c'est pas facile. J'ai sûrement 2 feuilles ce matin, donc vous pouvez dormir sans difficulté après. quelque chose aussi que j'ai médité pour moi-même sur les ressentiments et les sentiments. Il y a une bonne et il y a une mauvaise colère. Vous saviez qu'il y a une bonne colère aussi? Il y a une bonne colère, par exemple, la colère de Dieu contre le péché. Parce que Dieu veut qu'on soit à lui à 100% et le péché ne vient pas de Dieu. Et aussi, il y a une bonne colère quand nous sommes en colère contre Satan et ses ruses. Vous me suivez aussi? Ça, c'est une bonne colère contre les ruses du diable. Mais il y a aussi de fausses accusations. D'abord, je veux voir encore une fois la colère. Il y a Éphésiens 4, 26, si tu veux bien, Monique. C'est mal traduit de français en du grec du Nouveau Testament en français. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La traduction n'est pas bonne. Il y a d'autres traductions qui disent le contraire. Mettez-vous en colère. Mais si vous vous mettez en colère, alors ne péchez point. Parce qu'il y a des choses qui arrivent de temps en temps, c'est bien de se mettre en colère. C'est une bonne colère. Contre les ruses du diable, justement. Mettez-vous en colère. Ça va être traduit comme ça en Éphésiens 4:26. Il y a aussi une mauvaise colère qu'on voit dans la vie de Jonas. Qui peut m'aider? Quand est-ce que Jonas s'est mis en colère? Parce que c'était un prophète, l'Éternel, qui a prophétisé sur Ninive. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, Ninive sera détruite. Et ce n'est pas arrivé. Et quand ce n'est pas arrivé, il n'était pas content. Il dit, qu'est-ce que les gens vont penser à moi? Je suis un mauvais prophète. Et nous trouvons ça donc aussi dans la Bible. Bon, on ne va pas voir, mais en Jonas chapitre 4, Jonas blâme Dieu plus ou moins. Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implorait l'Éternel, dit, « Ah, Éternel, je sais bien, n'est-ce pas ce que je disais déjà quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en voyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Seigneur, je veux mourir. Reprends ma vie. » Donc il dit, il blâme Dieu pour son amour pour les gens de Ninive. Il dit, « Qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Il pense plutôt à moi que ces 10 000 ou 100 000 personnes là à Ninive qui vont crever parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Non, mais c'est vrai, quand on pense un petit peu, il était égoïste et il était en colère. Mauvais ressentiment. Vous comprenez, même Jonas, même un grand prophète peut être quand même en colère. Être en colère contre Dieu, c'est grave. Il y a aussi, ça c'est un deuxième point, il y a une bonne et une fausse culpabilité. C'est bizarre. Bonne quand nous avons péché. Il y a une bonne et une fausse culpabilité. Il y a une bonne culpabilité quand nous avons péché, quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas à la colère de Dieu, quand on a volé ou menti ou fait d'autres choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Une fausse culpabilité quand nous n'avons pas péché contre Dieu. Parfois on est accusé de choses qui ne sont pas vraies. Et c'est arrivé dans ma vie assez souvent. Exemple biblique, fausse accusation par ami de Job. Si tu es malade comme ça, Job, s'il y a des problèmes, tes enfants sont morts et tes brebis sont mortes, etc. Il doit y avoir quelque chose de louche dans ta vie. Il est accusé par ses meilleurs amis. Il doit y avoir un péché dans ta vie. Et c'est une fausse accusation. Une fausse culpabilité. Il y a aussi dans notre vie de chaque jour, on voit des familles où il y a des divorces. Et les enfants peuvent se blâmer pour le divorce de leurs parents. Nous n'étions pas gentils, papa est parti ou maman est parti, c'est à cause de nous. Et ça crée une fausse culpabilité dans ces enfants. Vous me suivez? Donc, il y a une bonne et il y a une mauvaise culpabilité. Troisième point, il y a une bonne et mauvaise anxiété. Ou peur, ou crainte. Quand on dit le mot anxiété, c'est un mot avec une peur qui est vague. Anxiété, on ne peut pas mettre la main dessus. On ne sait pas d'où ça vient toujours. Tandis que la peur ou la crainte est beaucoup plus précis. Exemple, il y a une bonne anxiété pour nous protéger On appelle ça la crainte de l'Éternel. Ça veut dire respect, ce que Dieu est, ce qu'il dit, et ce qu'il fait. Il y a aussi dans la famille, par exemple, il y a une bonne anxiété que les enfants peuvent avoir, qui vient des parents qui avertissent leur enfant de ne pas toucher le feu. Ça, c'est une bonne crainte, une bonne peur. Les enfants doivent apprendre de ne pas toucher le feu. Il y a une bonne anxiété aussi venant de Dieu quand on a mal agi. Il y a aussi une bonne anxiété quand Adam et Ève se sont cachés après avoir désobéi à Dieu. Ils se sont cachés parce qu'ils savaient quelque chose qui est arrivé, qui n'était pas la gloire de Dieu, et ils se sont cachés. Genèse, déjà chapitre 2, 3, c'est pas brillant. Il y a contre la mauvaise anxiété, Dieu veut nous protéger quand il a une mauvaise anxiété. Et ça, c'est un verset que j'ai mis en musique il y a longtemps, il y a 30-40 ans. Ésaïe 41, verset 10. J'aimerais bien qu'on l'apprenne par cœur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Je sais Dieu. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et cette expression droite triomphante, ça veut dire ma main puissante, mon bras puissant. C'est une expression. Je veux dire, encore une fois, si vous voulez le dire avec moi, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quand j'étais plus jeune, je pouvais le chanter avec vous, mais en ce moment, je n'ai plus de voix. C'est comme ça. Hein. Il y a un autre verset dans le Nouveau Testament et qui se trouve en 1 Jean. Chapitre 4, 18. Est-ce que vous le connaissez par cœur? Ça commence avec l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Dix-huit, dix, donc ce n'est pas juste. C'est 4, 18. Monique, ça arrive, hein? Tu n'as pas bien lu. Mais je ne vais pas te culpabiliser, hein? Non. 4:18. Alors 4:18 dit, l'amour parfait de Dieu en nous, l'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que vous connaissez ce verset? L'amour de Dieu, l'amour parfait bannit la crainte. Ça, c'est merveilleux aussi, ce verset. Alors, je continue. On se voit. Tu l'as trouvé? Non. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose le châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est un verset merveilleux à prendre par cœur pour la semaine prochaine. Je blague. Maintenant, il y a une relation étroite entre les pensées et les émotions. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de mon message ce matin. Il y a un lien étroit entre nos pensées et nos sentiments. Si tu veux le prouver. On va prendre, Monique, si tu veux, Jérémie 3, 19, 23. Pas 23, ça n'existe pas, Jérémie. Lamentation de Jérémie, c'est chapitre 3, 19, 23. Et ça montre le lien étroit entre nos pensées et nos émotions. Yes? Quand je pense, ça c'est Jérémie, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, le mot poison est très difficile quand on vient de la Hollande, le mot poisson et poison, c'est une grande différence. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, quand je pense à ma détresse et à ma misère, sentiment, mauvais sentiment, il est misérable, il n'est pas bien, etc. Quand je pense à tout cela, je suis triste, déprimé. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Donc elle est abattue à cause de ça. Alors qu'est-ce qu'il veut? Tout dépend de ce que tu veux dans ta vie. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ça veut dire qu'il veut changer de pensée. Ce que me donne l'espérance. Et le nom Nadège veut dire espérance, entre parenthèses. Son nom, c'est merveilleux, c'est espérance. Ce qui me donne l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. La compassion de Dieu n'a pas terminé. Elle se renouvelle chaque matin. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Je suis triste, je suis abattu, mais ce que je veux changer de pensée. Alors, ça, c'est fait que j'ai noté. Le changement des pensées entraîne un changement des émotions. Sachez-le. Si vous voulez un changement dans les mauvais sentiments, il faut changer de pensée. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas de médicaments qui vont vous aider. Il n'y a pas de médecins qui peuvent vous aider. Mais changer les pensées. Alors, en français, et ça c'est un grand problème, j'ai mis ça, j'ai encerclé ce matin. En français, on a parfois du mal à faire la distinction entre les pensées et les sentiments. Et on peut trouver ça, par exemple, Philippiens 2:5, si tu veux, Monique. Et vous connaissez ce passage de Jésus-Christ qui est venu sur terre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quand on va plus loin, on voit qu'il, lui qui était Dieu, il est devenu homme, et il est mort sur la croix pour nous. Ayez en vous les sentiments. Le mot en grec n'est pas sentiment, le mot c'est pensée. Ayez en vous les pensées ou la mentalité qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas avoir des sentiments qui est en Jésus-Christ. Mais nous devons avoir les pensées de Jésus qui s'est humilié lui-même et qui est mort pour nous sur la croix, par amour. C'est important. Le mot sentiment et pensée, on ne comprend pas toujours la différence. En grec, dans l'original, ça veut dire donc pensée. On a parfois du mal à faire la distinction entre les pensées et les sentiments en français. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tandis que le mot grec est pensée, c'est le mot phroneite, phroneite, pensée ou mentalité. Cela montre bien la confusion. Donc on peut avoir confusion parce que ce n'est pas bien traduit. Ça veut dire, mes chers amis, que nous devons apprendre, vraiment apprendre avec le Seigneur et par le Saint-Esprit, d'avoir un changement dans nos pensées. Nous devons renouveler nos pensées. Quand on devient chrétien et qu'on ne connaît pas encore la parole de Dieu, alors quand on devient chrétien, c'est seulement, on commence comme un bébé spirituel et on va seulement grandir, devenir mature, devenir fort en lisant la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ceux qui veulent grandir, c'est seulement par la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est comme Dieu est. Il est comme il pense. Et il y a Esaïe, qui, je crois, 55, qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. J'en parlerai en mars. » Mois de mars, oui. À la fin de mars, je crois, le dernier dimanche. La Bible dit que c'est possible de changer et de maîtriser nos émotions par nos pensées, Romains 12, verset 2. Monique, si tu veux bien. Vous ne le connaissez pas que. Soyez renouvelés par nos pensées. Dieu ne va pas le faire pour nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous devons être renouvelés dans la façon de penser, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Souvent, je vous ai donné des messages, comment trouver la volonté de Dieu. Par les rencontres divines, par les songes, par toutes sortes de choses. Mais nous devons renouveler nos pensées en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que Dieu est comme il pense. Et ses pensées sont dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous me suivez? Si vous voulez connaître une personne, il faut parler avec la personne et écouter bien et comprendre ce qu'il veut dire. Parce que quand on parle, on dit un mot, mais le mot pour la personne qui parle n'a pas le même sens toujours pour celui qui le reçoit. C'est vraiment un art de comprendre les autres. Pour terminer, quels sont les remèdes contre les émotions négatives dans les psaumes? Par exemple, contre la colère. Je ne veux pas le lire avec vous parce que ça prend trop de temps. Mais on voit un homme qui s'appelle Asaph. Et on trouve ça en psaume 73, pour ceux qui prennent les notes. On voit un homme qui s'appelle Asaph. Et Asaph dit, plus ou moins, regarde, je suis croyant. Et les gens autour de moi qui ne sont pas croyants, ils prospèrent. Ils ont tout, ils sont heureux. Et ils se fichent de Dieu, ils ne croient pas. Et regarde, ils réussissent mieux dans ma vie que, dans leur vie que moi. Il est, dans un sens, il a le sentiment de jalousie. Et tout change. Quand est-ce que Asaph a changé? Il dit, quand j'ai pensé à ça, j'ai vu le point de vue de Dieu. Leur vie est une ruine. Leur vie est un désastre. C'est dans le psaume 73. Quand j'ai vu le point de vue de Dieu, j'ai changé. Et de temps en temps, nous pouvons changer notre façon de voir. Au lieu d'être jaloux, pense un petit peu à ces gens qui prospèrent peut-être, mais qui ne sont pas chrétiens. Leur fin, malheureux. Un désastre. Et même si tu n'as rien, c'est mieux d'être chrétien et d'avoir rien que d'être riche, et etc. Il y a donc, ça c'est le premier point. Ça commence toujours avec les trois P. Il y a trois P. Remède contre les émotions négatives dans les psaumes. Trois P. Le premier P, c'est avoir le point de vue de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit ta vie? Comment est-ce que Dieu se voit, se présente? Deuxième exemple, contre la culpabilité. Il y a aussi un médecin selon la Bible, un médicament. On a besoin du pardon de Dieu. Par exemple, dans le psaume 51, nous voyons le roi David qui est malheureux parce qu'il a péché, il a pris la femme de Uri, Bathsheba, et pas seulement cela, il a tué Uri aussi, il est meurtrier en plus. Parce que lui, il est donc général, il a dit, il faut mettre à l'armée quand on se bat, il faut mettre Uri dans une place qu'il est vulnérable et puis on l'a tué. Dans un sens, ce meurtre, pas en direct, mais il l'a fait quand même. Il demande pardon pour cela en psaume 51. Ça, c'est le deuxième P. On a besoin du pardon de Dieu. Point de vue de Dieu et aussi le pardon de Dieu. Et quand on dit l'adultère de David, mais ça veut dire aussi l'envie qu'on peut avoir. La séduction. Et pour le meurtre, on peut dire, oui, moi je n'ai jamais tué. Mais est-ce que tu as détesté une personne de beaucoup? La haine. Détester. Donc dans ce sens, nous sommes tous capables, coupables. Plus ou moins, on n'a pas toujours aimé une certaine personne, ça peut être un voisin, ça peut être à l'école une certaine maîtresse ou maître. Moi j'ai eu ça à l'école. J'ai eu deux ou trois qui je n'aime pas parce que je sentais qu'ils ne m'aiment pas. Moi je ne l'aime pas non plus. Tac ou tac. Donc, donc les trois P, point de vue de Dieu, pardon de Dieu, on en a bien besoin. Et troisième, médicament contre l'anxiété. Et là, j'aimerais bien lire avec vous le psaume 23 pour terminer, parce que c'est seulement 6 versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils disent rien, oui, à Marseille, ils disent rien. Je sais parce que j'ai habité avec Péril, nous étions souvent dans le midi et dit toujours rien. C'est beau, hein? Psaume 23, j'aime beaucoup parce qu'il a seulement 6 versets et c'est un médicament merveilleux. Psaume 23, facile à trouver, c'est juste avant le psaume 24. Tu blagues. Si on ne blague pas, on est malheureux, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans ce psaume, dans ce sens, il y a des promesses pour le passé, pour la vie présente et pour l'avenir. On trouve tout dans le psaume 23. Mais je trouve encore un peu. Promesse de Dieu pour tout ce qui s'est passé dans ta vie qui n'était pas la gloire de Dieu. Mais Dieu donne des promesses pour la vie présente et pour l'avenir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu pourvoit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu donne la paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu donne la direction. Il restaure mon âme. Dieu guérit. Il me conduit dans le sentier de la justice. Dieu montre qu'il est toujours juste. Il est la vérité. Et tout cela à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est juste avant de mourir dans ce sens. Dans l'avenir, il sera le même qu'il est maintenant. Il est toujours là. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu me protège. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, dans ce sens, sache-le bien, c'est pour l'ennemi de Dieu. Et ta houlette, c'est pour toi quand tu tombes. Donc le berger, il a une houlette et il a un bâton. Quelle belle promesse. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu donne la victoire. Tu enduiles ma tête en cas de blessure. Quand tu tombes, en cas de blessure, tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire Dieu donne tout en abondance. Nous avons la plénitude en Jésus. Bon, plénitude en grec, c'est pléroma. On a tout. Et puis, dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ou me poursuivront tous les jours de ma vie. Quelle belle assurance. Dieu me donne sa joie et sa grâce tous les jours. Et puis encore pour l'avenir. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Déjà David, il était sûr de son salut. C'est tout, c'est merveilleux. Tout dans le psaume 23. On connaît souvent le premier verset, et les gens qui ne sont pas chrétiens, ils connaissent souvent aussi le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Mais moi, je sais dans ma vie, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel, il est mon berger. La question, est-ce que l'Éternel est ton berger? Alors, encore donc, une paix, promesse. Donc, on trouve ça à la fin des remèdes contre les émotions négatives. Est-ce que tu demandes le point de vue de Dieu sur ta situation? Comment est-ce que Dieu voit une certaine situation dans ta vie? Point de vue. Est-ce que tu as demandé le pardon de Dieu quand il y a quelque chose dans ta vie qui n'était pas sa gloire? Ça peut arriver de temps en temps. Qu'il y ait quelque chose que tu as dit, un petit mensonge, ou tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi, comme petit enfant, comme jeune, peut-être même adulte. Mais Dieu pardonne. Paix, pardon. Et puis, troisièmement, donc, les promesses de Dieu. Vous pouvez vous appuyer sur les promesses de Dieu. Et je dis, à la fin de mon message, juste la prière, merci Jésus, ta parole peut me guérir de toutes les émotions négatives. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Merci Jésus, ta parole peut me guérir de toutes les émotions négatives. Vous êtes d'accord? Amen. On va se mettre debout. Juste une minute seulement. Seigneur, je te remercie pour ce matin et je bénis mes frères et mes sœurs. Je demande vraiment que tu sois avec eux et Seigneur, que nous soyons réveillés cette semaine et que nous pouvons avoir ton point de vue. Nous reposons, Seigneur, sur tes promesses et demandons ton pardon. Parce que tu es là, Seigneur, pour tout cela. Je peux dire, Seigneur, de tout mon cœur, l'Éternel est mon berger. Vous pouvez le dire avec moi, peut-être. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Soyez bénis.